Vous êtes sur Radio Galère 88.4, nous sommes le lundi 11 mars, c'est les infos de 7h30 à 8h30, c'est la journée mondiale de la plomberie et le dicton du jour c'est qui a bu à la Sainte-Rosine boira à la Sainte-Blandine le 2 juin. On va commencer les informations par les informations internationales du week-end et puis après on repassera à l'actualité nationale et on terminera par les événements à venir au niveau local, comme chaque lundi. Et l'international, ça commence en Algérie avec la protestation contre le cinquième mandat et contre Abdelaziz Bouteflika qui prend de l'ampleur. Alors les autorités ne chiffrent pas, mais les journalistes de l'AFP sur place ont pu constater que la mobilisation à Alger ce vendredi était plus impressionnante que les fois précédentes. Les manifestants protestent contre la nouvelle candidature de M. Bouteflika, le président sortant pour un cinquième mandat. C'est une marée humaine qui a envahi pacifiquement les rues d'Alger et des grandes villes d'Algérie en demandant pour le troisième vendredi consécutif au président Abdelaziz Bouteflika de renoncer à son cinquième mandat. Défiant les mises en garde sur les risques de chaos lancés la veille par le chef de l'État hospitalisé à Genève, mais qui refuse de céder, la foule a défilé arborant des grands drapeaux algériens rouges, verts et blancs. À Alger, la mobilisation était très largement supérieure à celle des deux précédents vendredis, pourtant déjà impressionnant, c'est ce que constatait l'AFP, mais c'est difficile de chiffrer, les autorités locales ne donnant aucune évaluation du nombre de protestataires. Tandis que certains sur les réseaux évoquent peut-être des millions. Bon, il faudrait vérifier les sources. À Oran et Constantine, respectivement, deuxième et troisième ville du pays, la mobilisation a également été très importante. Comme dans d'autres villes du pays, les rassemblements ont coïncidé avec la célébration du 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes, et un grand nombre d'entre elles figuraient parmi les manifestants de tout âge qui ont défilé dans le calme au cri de « pouvoir assassin » ou « pas de cinquième manga » et « Bouteflika » ou encore « femmes contre le cinquième ». Le chef de l'État, lui, a présenté par ses partisans comme le garant de la paix dans le pays depuis les années de guerre civile, entre 1992 et 2002, a mis en garde dans son message, sans les nommer, les ennemis insidieux qui veulent semer le chaos. En creux, M. Bouteflika, très diminué par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, réaffirme qu'il n'entend pas renoncer à briguer son cinquième mandat. Lors de la présidentielle du 18 avril, la rue algérienne a montré vendredi, elle, qu'elle n'était pas prête à céder non plus. C'est aussi la diaspora algérienne qui se mobilise en France. Depuis l'annonce de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat, les manifestations de protestation s'enchaînent à la fois dans toute l'Algérie, mais aussi en France. La diaspora algérienne est la plus importante au monde. Et cette diaspora suit les événements de très près. Je crois qu'on dénombre plus de 10 000 manifestants entre samedi et dimanche, hier. Selon l'INSEE, en France, 760 000 immigrés algériens vivent en France, 1,7 million considérant aussi leurs enfants nés dans l'Hexagone. Depuis un mois, cette diaspora a les yeux rivés de l'autre côté de la Méditerranée. C'est une première. Ça n'était jamais arrivé que la diaspora soit unifiée sur un même combat politique, sur un même front politique. À Paris, on comptait, donc si on comptait 10 000 personnes en France, à Paris, les chiffres qui ressortent, c'est 2 000 manifestants et un millier à Marseille. Pour les autres villes, je n'ai pas réussi à avoir les chiffres. Mais bon, je suis sûr que vous saurez les trouver. On traverse l'Atlantique et au Venezuela, une panne d'électricité fait 15 morts, des patients dialysés faute de soins. 15 patients souffrant de maladies rénales sont morts faute de dialyse au Venezuela alors que le pays est paralysé depuis 3 jours par une panne géante d'électricité. C'est ce qu'a annoncé samedi une ONG qui se consacre aux questions de santé. La situation des, perso- des personnes souffrant d'insuffisance rénale est très difficile et très critique. 95% des unités de dialyse qui pourraient atteindre aujourd'hui 100% sont paralysées par manque d'électricité. Les Vénézuéliens sont confrontés depuis jeudi après-midi à la pire panne d'électricité de l'histoire du pays, que le gouvernement attribue à une guerre électrique menée, selon lui, par les États-Unis et par le chef de file de l'opposition, Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, reconnu par une cinquantaine de pays depuis le 23 janvier. Le président Nicolas Maduro a dénoncé samedi une nouvelle attaque cybernétique qui aurait empêché le rétablissement de l'électricité à travers le pays. Je le cite, « Nous avions avancé à près de 70% dans le rétablissement de l'électricité lorsque nous avons reçu à la mi-journée une autre attaque cybernétique visant une des sources d'énergie qui fonctionnait parfaitement. Cela a annulé tout ce que nous avions réalisé. » Beaucoup d'observateurs attribuent quant à eux la panne à un manque d'investissement du gouvernement dans l'entretien des infrastructures. Difficile de tirer le vrai du faux, tant les informations et les sources se contredisent. À creuser. Et aux États-Unis, un peu plus haut, Donald Trump devrait demander 8,6 milliards de dollars pour le mur. Alors ce fonds s'ajouterait au financement d'urgence des 6,5 milliards prévus, selon la déclaration d'urgence nationale annoncée le 15 février, une procédure qui lui permet de contourner le Congrès pour débloquer les financements. Donald Trump a prévu de demander donc 8,6 milliards de dollars dans le budget de 2020 pour financer le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique. C'est ce qu'indiquait en tout cas son conseiller économique Larry Kudlow. Selon le Washington Post, dans son budget pour l'année fiscale 2020 qui sera dévoilé lundi, Donald Trump veut diriger 5 milliards de dollars du budget du ministère de la Sécurité intérieure et 3,6 milliards de celui du Pentagone vers son projet de mur frontalier destiné à empêcher l'immigration clandestine. Ces chiffres feront l'objet d'âpres négociations entre la Maison-Blanche et les parlementaires. Ces fonds s'ajouteraient au financement d'urgence de 6,5 milliards prévus selon la déclaration d'urgence nationale annoncée le 15 février, une procédure qui lui permet de contourner le Congrès pour débloquer les financements. Pour rappel, la dernière fois que Donald Trump a demandé aux parlementaires d'approuver le financement de son mur frontalier, le bras de fer avec le Congrès a abouti à un shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle du gouvernement américain. Un shutdown et une fermeture de 35 jours. Il a donc cherché à contourner les élus avec sa déclaration d'urgence nationale, mais le Congrès s'apprête à adopter une résolution destinée à annuler ce financement d'urgence. Bon, on espère tous bien sûr que ce mur ne se construira pas. Affaire à suivre dans quelques jours. Retour en Israël, où Netanyahou affirme que Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens. On s'y attendait. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réaffirmé dimanche qu'Israël n'était pas l'État-nation de tous ses citoyens, mais uniquement du peuple juif, excluant la population arabe du pays en pleine campagne pour les élections législatives du 9 avril. Netanyahou a réagi dimanche sur son compte Instagram à une polémique entraînée par des propos de la comédienne Rotem Sela tenus la veille sur ce réseau social. Il a également évoqué le sujet en ouverture de la réunion hebdomadaire du cabinet. L'actrice et mannequin très populaire avait écrit un texte défendant les droits de la minorité arabe qui représente 17,5% de la population, affirmant que l'État d'Israël est l'État de tous ses citoyens. Netanyahou a réagi en déclarant que tous les citoyens, y compris les Arabes, jouissaient de l'égalité des droits, mais a rappelé l'existence d'une loi controversée adoptée l'année dernière selon laquelle Israël est l'État-nation du peuple juif. Comme vous l'avez écrit, il n'y a pas de problème avec les citoyens arabes d'Israël. Ils ont les mêmes droits que nous et le gouvernement de Likoud a investi plus dans le secteur arabe que tout autre gouvernement, a-t-il ajouté. À propos de son parti de droite, M. Netanyahou a été accusé par l'opposition d'avoir diabolisé les Arabes israéliens avant les élections dans le but d'augmenter le taux de participation des électeurs de droite. La droite, quant à elle, affirme pour sa part régulièrement que les députés arabes israéliens sont des agents de la cause palestinienne. On ne compte plus le nombre de cadres arabo-palestiniens enfermés et emprisonnés en Israël. Selon M. Netanyahou, les Israéliens ont le choix entre Bibi, son surnom, et Tibi, le nom du député arabe israélien Ahmed Tibi, ancien conseiller du leader palestinien Yasser Arafat, qui pourrait, selon lui, soutenir un gouvernement dirigé par M. Gantz, hypothèse un peu invraisemblable. En tout cas, la participation des partis arabes et une majorité du gouvernement est exclue, mais il pourrait bloquer la formation d'une majorité. Les Arabes israéliens sont majoritairement des Palestiniens qui sont restés sur les terres après la création de l'État d'Israël en 1948 et qui soutiennent la cause palestinienne. Monsieur Netanyahou, lui, est à la tête de ce qui est perçu et de ce qui est comme le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël et souhaite la formation d'une coalition similaire à l'issue du scrutin. Et on va rester de l'autre côté, dans le même pays, hein, finalement, en Palestine, où un Palestinien a été tué et au moins 42 manifestants blessés vendredi par les tirs de soldats israéliens lors d'affrontements à l'est de la bande de Gaza, près de la frontière. Tamer Arafat, un homme de 23 ans de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a été grièvement blessé plus tôt dans l'après-midi, a succombé à ses blessures. 42 autres personnes avaient été blessées par les tirs d'armes à feu de soldats israéliens dans toute la bande de Gaza. Deux femmes, 15 enfants et 4 ambulanciers paramédicaux et 2 journalistes parmi les blessés. Sur le compte-rendu des infos tristes du week-end en Turquie, pour la manifestation du 8 mars, la Journée internationale du droit des femmes, des dizaines de rassemblements étaient prévus à l'occasion de cette journée. À Istanbul, les policiers avaient bouclé la grande avenue piétonne Istiklal au cœur de la ville dès l'après-midi en prévision de la marche programmée en soirée. Pourtant, les années précédentes, les autorités avaient fermé les yeux, même sous état d'urgence après la tentative de putsch en 2016. La marche du 8 mars était en quelque sorte une exception, un grand rassemblement pacifique toléré malgré les slogans et les affiches anti-gouvernementales cette fois-ci. En revanche, les forces de l'ordre ont violemment dispersé la foule de plusieurs milliers de personnes avec gaz lacrymogène et balles de plastique. C'était déjà le cas en novembre dernier, lors d'un autre rassemblement féministe. Et un peu plus loin, encore une fois, de l'autre côté de l'Atlantique, on zigzague sur la map monde au Chili. La marche du 8 mars à Valparaiso s'est terminée par de graves incidents et des affrontements entre les manifestants et les carabiniers. Les incidents ont abouti à l'arrestation de plusieurs personnes. Les incidents ont commencé quand certaines participantes ont voulu franchir les barrières de sécurité. Serait-ce à faute des manifestants ? Voilà pour le premier tour des infos à l'international. Et il me semble qu'hier c'était carnaval, donc je propose de s'écouter un petit morceau de musique en attendant la suite des informations. Une chanson qui rappelle, quant à elle, le carnaval. Je vous laisse avec Tokino et Vinicius. Macha de Car... je vais pas réussir à le dire en fait, hein. C'est trop dur le matin. Écoutez plutôt.
La marche de la quarta feira de cinzas.
Acabou nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz, e nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou. Pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê, nem se sorri, se beije, se abraça e sai caminhando, dançando e cantando cantigas de amor. E no entanto é preciso cantar, mas que nunca é preciso cantar. É preciso cantar e alegrar a cidade. A tristeza que a gente tem, qualquer dia vai se acabar. Todos
vão sorrir. Voltou a esperança, é o povo que dança, contente da vida, feliz a cantar. Porque são tantas coisas azuis, há tão grandes promessas de luz, tanto amor para amar e que a gente nem sabe. Quem me dera viver pra ver e brincar outros carnavais, com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz.
Et voilà, de retour sur les ondes de Radio Galère. On vient d'écouter Toquinho et Vinicius de Moraes. Une chanson sur le carnaval, d'ailleurs, j'en imagine. Et j'imagine que certains doivent avoir une sacrée casquette ce matin. L'ambiance était au beau fixe hier, au carnaval indépendant de la Plaine et de Noailles, qui a rassemblé du monde, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. J'y suis moi-même passé, je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Je crois savoir que ça a gazé un petit peu à la fin, presque comme chaque année. Je n'ai pas plus d'infos, en tout cas, si vous avez des informations importantes à relayer, hein, vous pouvez toujours appeler sur le numéro de Radio Galère pour nous donner des informations fraîches. Voilà. Et on repart avec l'actualité nationale. C'était l'acte 17 des Gilets jaunes ce week-end, samedi. Un nouveau week-end de mobilisation et finalement avec un certain glissement dans le traitement médiatique tout au cours du mouvement. Et ça a beaucoup évolué ces quelques semaines. Alors ce mouvement, il avait été lancé le 17 novembre 2018. Et le moins que l'on puisse dire, oui, c'est que effectivement le traitement médiatique a beaucoup évolué. Au début, il y avait le côté méprisant de cette France périurbaine, très présente dans le mouvement. Il y avait un traitement façon carnavalesque, des gentils gilets jaunes qui occupent des ronds-points, bloquent des péages, en dansant, parfois ignorant le caractère de détermination présent dès le départ du mouvement. Puis le mouvement allant crescendo d'acte en acte, nous avons vu apparaître la contre-attaque bourgeoise dans les médias voulant coller toutes les étiquettes diverses et variées comme les séditieux, les fumeurs de clopes qui roulent au diesel comme disait Benjamin Griveaux, ou les brutes comme disait Christophe Castaner, avec un point culminant lors des actes les plus insurrectionnels de décembre, les traitant de casseurs, d'anti-républicains, de factieux et enfin très récemment de fascistes d'extrême gauche et d'extrême droite. Jusqu'à présent, les journalistes, les éditorialistes et autres politiciens qui se relayaient sur les plateaux de télé pour critiquer le mouvement des Gilets jaunes n'ont eu de cesse d'utiliser la question numérique pour décrédibiliser le mouvement. Or, nous le disions, le mouvement des Gilets jaunes est inédit dans l'histoire de la Ve République. La crise semble bien sûr réelle et elle est profonde. Et peut-être comme un symbole du traitement médiatique pour cet acte 17, aucun bandeau de chiffres de la mobilisation, fil conducteur habituel pour les journalistes, n'a été communiqué à 16h, alors que normalement c'était un peu la seule information qui était relayée. Cet acte 17, s'il n'est pas un sursaut dans la mobilisation, démontre néanmoins dans une période de vacances scolaires que le mouvement est ancré profondément et n'est pas prêt de s'arrêter demain. Il n'est pas question, comme le disaient les journalistes, de jusqu'au boutistes ou de radicaux, mais bien de gilets jaunes qui continuent à se mobiliser tant qu'ils ne seront pas écoutés. Le gouvernement, lui, avait espoir que le démarrage du grand débat puisse en finir définitivement avec ce mouvement, mais force est de constater qu'à aucun moment le grand débat n'aura finalement mis la claque escomptée au mouvement. Et comme un pied de nez au grand débat, les gilets jaunes prévoient une forte mobilisation partout en France lors de l'acte 18 pour le samedi 16 mars. Ouh, désolé, bonjour Christine. Voilà, j'ai été rejoint par Christine. Merci. J'ai essayé de le cacher autant que possible. Que voulais-je dire enfin pour conclure là-dessus ? Bah finalement que oui, le traitement médiatique du mouvement des Gilets jaunes dans les médias était finalement assoupli et on sort un peu de la condescendance ou de la diabolisation du mouvement. Et voilà, l'essentiel à retenir, c'est que finalement le grand débat n'a pas eu l'effet escompté, ni les vacances scolaires, ni le grand débat n'ont eu finalement raison de la mobilisation des irréductibles porteurs de vêtements flashy. Mais attendons de voir ce que donnera le prochain mouvement, le 16 mars, pour voir si la mobilisation des Gilets jaunes sera une réponse, un pied de nez au grand débat national lancé par le gouvernement Macron. Voilà. J'ai commencé par l'international, mais comme j'étais tout seul, ça va vite, hein, tu sais. Et je viens de mettre un morceau de musique. Mais on peut se remettre un morceau de musique, un autre morceau de carnaval, comme ça on va refaire un petit tour à l'international, je pense, avec Christine. À tout à l'heure.
Thank you.
ben voilà, retour sur les ondes avec un retour à l'international.
Ben oui, je suis désolée, j'étais très en retard. C'est la faute au carnaval.
J'avais dit qu'il y en avait qui allaient avoir du mal ce matin.
Ben oui.
Je ne pensais pas que tu serais dedans, Christine.
Alors, la voix aussi. Hein. On a du mal la voix le matin après le carnaval. Alors, un mot quand même sur ce vol Addis Abeba hein, au Kenya qui s'est écrasé peu après son décollage.
Alors, attends, Christine, on ne t'entend pas du tout au micro. Voilà. C'est bizarre. Eh ouais, c'est. On a un petit problème. Attends, je vais te prêter mon micro.
Ben voilà. Donc, ce vol Addis Abeba Nairobi qui s'est écrasé 6 minutes après le décollage, avec 150 personnes à bord qui sont toutes mortes, donc 149 passagers et 8 membres d'équipage. Alors, au début, j'ai cru que j'allais vous lire le nombre de nationalités, mais en fait, il y avait 36 nationalités qui étaient présentes dans cet avion sur les 157 personnes. Donc, beaucoup de Kenyans et de Canadiens, et puis, bon, pas mal d'autres. Et beaucoup de membres salariés de l'ONU hein, ou proches des agences de l'ONU, parce qu'il se trouve qu'il y aura au Kenya dans la semaine une réunion de l'ONU. Et du coup, l'ONU est en deuil hein, avec 19 membres d'organisations reliées à l'ONU qui sont décédés dans ce vol. Voilà, dont tout le monde parle, on ne va pas s'étaler plus que ça là-dessus. Bon, le Boeing, il était vraiment neuf, hein, un Boeing 737 livré en 2018. Donc, le pilote s'est rendu compte tout de suite que ça n'allait pas parce qu'il a demandé à faire demi-tour, mais ça lui a été accordé, mais ça n'a pas suffi. Voilà. Sur l'Algérie, juste y revenir pour parler de cette grève générale qui a commencé hier, qui était irrégulièrement suivie, mais parfois extrêmement suivie. Et pour une grève générale, il y a eu des endroits, notamment en Kabylie, à Naba, à Béjaïa, où tout était fermé. Il y a certains secteurs de la Sonatrach, hein, qui est l'équivalent des FGDF qui a été aussi totalement en grève, avec d'autres qui continuent à travailler. Il y a une centrale patronale, en fait, un regroupement patronal qui s'est déclaré solidaire. Alors, il s'appelle Cévital. Il regroupe les industries agroalimentaires et diverses autres choses, ce qui rappelle un tout petit peu la Tunisie quand même. Voilà. Et puis hier, donc le dimanche est un jour travaillé hein, en Algérie. Les lycéens étaient dans la rue dans plusieurs villes, notamment à Alger. Les étudiants et enseignants continuent d'occuper les facs. Ils sont 2000 à occuper plusieurs facultés. Il n'y a plus aucun transport public. Le secteur des transports publics était en grève générale très, très massive. Donc, et puis, selon les entreprises, ça a pris ou pas. Donc, il paraît que du côté d'Oran, peu de grèves, hein, magasin ouvert. Par contre, par exemple, une entreprise de 6000 salariés, la SNVI, qui fabrique des camions, des bus, était en grève totale. Voilà, donc quelque chose qui est vraiment un grand mouvement hein, qui part. Puis des questions sur l'avion qui est revenu de Suisse, l'avion présidentiel. Mais enfin, on n'a pas vu le président, quoi. Voilà. Bon, un petit mot peut-être aussi sur... Je ne sais plus de quoi je voulais parler. Enfin, sur Israël, deux informations sur Israël et la Palestine avec des poursuites obtenues hein, pour une fois contre des soldats israéliens pour violence contre des détenus palestiniens. Ces violences sont extrêmement fréquentes. Donc, c'est bien qu'une plainte ait pu être poursuivie. Ils ont été condamnés à 6 mois de prison. C'est pas énorme hein, pour des gens qui ont abusé de leur statut et de l'enfermement d'autrui. Mais c'est notable quand même cette condamnation qui en quelque sorte, rappelle au monde et prouve au monde ces types de violences. Intéressant aussi la rencontre entre Tama Zandberg, qui est la chef du parti Meretz, qui est la gauche israélienne. Bon, ce n'est pas énorme, elle a 5 députés au Parlement israélien. Normalement, ils devraient conserver leurs députés après l'élection. Enfin, conserver, peut-être pas cela, mais leur score, on va dire. Donc, elle a rencontré Mahmoud Abbas à Ramallah pour parler de paix, pour rappeler que c'est une des questions essentielles et que pour eux, c'est la seule solution, une solution à deux États. Et c'est le seul parti israélien qui met ce point de la paix à ce point dans la campagne. C'est pourquoi on avait envie de le dire. Un petit point par rapport au 8 mars encore, qui est même un peu ancien, mais bon. Au Maroc, des groupes de femmes ont rebaptisé les rues hein, pour rendre un peu d'espace public aux femmes. C'est vrai que rebaptiser les rues avec des noms de femmes, rééquilibrer un peu, c'est pas plus mal. Hein. Ça rappelle quand même qu'il y a quelques femmes célèbres aussi. Voilà. Et puis, du côté de la Birmanie, dans l'état de Rakhine, une attaque contre la police, avec 9 soldats, 9 policiers qui ont été tués. Donc, mais là, c'est pas du tout les Rohingyas hein, ou, qui ont été, qui, dont tous ne sont pas rentrés et qui ont été victimes et qui sont victimes depuis des années, d'ailleurs, de discrimination. Et qui ont été victimes d'une tentative, enfin d'une tentative de meurtre massif hein, l'an dernier. Et là, c'est plutôt des bouddhistes, hein, donc des miliciens bouddhistes. Ils sont pas toujours pacifiques les bouddhistes. Donc une milice dans l'Arakan qui est pour plus d'autonomie pour la population bouddhiste et qui aurait attaqué. Ces commissariats de manière très violente. Voilà, toujours dans l'international, mais on se rapproche, c'est sur l'Europe, hein, avec une liste aux européennes qui sera menée par Puigdemont, l'ancien président de Catalogne en exil en Belgique. Et voilà, il sera tête de liste du parti catalan, qui est quand même de droite, hein, on rappelle. Par contre, Oriol Junqueras, lui, qui est l'ancien vice-président, qui lui est dans le procès hein, en Espagne et qui risque de nombreuses années de prison pour tentative de sédition. Il est chef de file d'un parti qui regroupe les partis régionalistes d'Europe. Alors, ils se sont appelés Alliance Libre Européenne et ils représentent plutôt, la gauche républicaine de Catalogne, hein, qui est un des partis indépendantistes en Catalogne. Donc, deux listes menées par des Catalans pour les prochaines élections européennes. C'est pas très équilibré, mais voilà. Pour une petite région, quand même, hein, sans vouloir les vexer. Bon, je ne sais pas, sinon, si on parle, parce qu'en Union européenne, à l'Union européenne, on va reparler du Brexit cette semaine. Hein.
C'est
l'assaut final.
Ça va être la conclusion, normalement, de ce feuilleton fleuve qui secoue l'Angleterre et le Royaume-Uni même, hein, parce que tous n'avaient pas ratifié, n'avaient pas demandé le Brexit. On pense notamment à l'Irlande. Moi, je te laisse.
Ben oui, mais quand tu lis, tu ne sais pas ce qu'il y aura au bout. Personne ne présume rien. Je ne sais pas, c'est assez... on te dit ben ça peut être porté. Bon, ça peut faire reculer pour mieux sauter. Ça peut être sans aucun accord, puis on te décrit une catastrophe, mais tu ne sais pas trop si ça en sera une, parce que ça ne va quand même pas être la guerre non plus. Enfin, voilà, il y a une espèce d'inconnu qui empêche de faire... Enfin, je ne sais pas, comme je n'ai pas l'habitude d'analyser ça, à vrai dire, je suis perplexe, quoi.
De ce que je vois, en fait, c'est que Theresa May a du mal à négocier des accords commerciaux avec l'Europe. Et du coup, les accords commerciaux, quand elle les présente après à son Parlement, le Parlement dit « bah non, faites des efforts avec l'Europe ». Et du coup, elle se retrouve un peu... Enfin, elle se retrouve, je ne vais pas la plaindre, hein, entre le cul entre deux chaises, pour parler de manière triviale. Et du coup, le traité n'ayant pas été ratifié par l'intégralité du Royaume-Uni, par l'intégralité des pays, ça suscite encore plus de débats au sein du Parlement. Donc, soit elle arrive à négocier des accords avec l'Europe qui sont acceptés par le Parlement, soit sinon, le Parlement appelle à un deuxième référendum pour savoir si oui ou non, Brexit ou pas, il y aura. Mais bon, j'aimerais pas être à la place de Theresa May, mais en même temps, je la plains vraiment pas, mais vraiment pas du tout.
Voilà. Bon, et puis de notre côté aussi, on a les discours qui y vont. Hein. Donc, un discours de Macron aux Européens, tout le libéralisme, les poncifs, et puis bon, une reprise. Par Mélenchon, on ne dit pas toujours du bien de Mélenchon, mais bon, il a fait un beau discours là, que vous pouvez lire dans Libération, contre le discours de Macron sur l'Europe, où il appelle, lui, à une Europe des biens communs, des peuples, une Europe ouverte et sans barbelés. Voilà. C'était peut-être facile, mais ça vaut mieux d'entendre ça que le contraire, en tout cas.
Tout à fait. Puis en parlant de la France, moi j'avais repéré quelques infos dans le cadre d'une chronique qu'on pourrait appeler presque elle est belle la France. Et ça commence par l'ONU qui appelle la France à respecter les droits des personnes handicapées. Alors c'était en octobre 2017, une rapporteuse spéciale de l'ONU des droits sur les droits des personnes handicapées, Catalina Devandas Aguilar, avait effectué une visite en France pour dresser un état des lieux du respect des droits des personnes handicapées. Et son rapport vient d'être rendu public et le constat est assez rude, que ce soit en termes de liberté individuelle, de droits politiques et d'accessibilité et plus globalement d'intégration dans la société. Le document pointe de graves manquements et la France avait pourtant ratifié un traité en 2010 et ce traité c'était la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Je ne vais pas forcément vous détailler tout ce que pointent les rapports, mais en tout cas... Force est de constater qu'en France, en tout cas, beaucoup de personnes handicapées sont privées de droit de vote. 380 000 personnes handicapées étaient en 2015 placées sous tutelle et 360 000 sous curatelle. Et les personnes sous tutelle ne sont pas habilitées à exercer leurs droits et ne peuvent accomplir d'actes civils sans être représentées par leur tuteur. C'est un des points qui est pointé par l'ONU. Il y a des dizaines de milliers d'enfants exclus de l'éducation nationale. C'est aussi pointé par la rapporteuse et son rapport. Et aussi des parents victimes d'actes d'intimidation ou de menaces. Ça, c'est une partie que je vais détailler parce qu'elle me semble assez édifiante. Le rapport fait des préconisations similaires pour donc les adultes handicapés et en finir avec le placement en institution isolée du reste de la société. Environ 200 000 adultes handicapés vivent en institution selon le document. Je cite, ces institutions restreignent toute liberté des personnes handicapées, les séparent et les isolent de la collectivité, leur ôtent le choix et le pouvoir de décision en matière de lieu de vie et de mesures d'assistance et les restreignent considérablement dans leur prise de décision au quotidien. Et des parents qui s'opposent au placement de leur enfant handicapé en institution sont victimes d'actes d'intimidation ou de menaces. Dans certains cas, perdent la garde de leur enfant lorsque celui-ci est placé en institution de force. C'est-à-dire qu'en fait, on préconise le placement en institution et si on refuse et qu'on décide de garder son enfant, l'État ôte la garde des enfants aux parents. Et puis, évidemment, il y a un truc qui est intéressant, c'est contre cette institutionnalisation du placement de force, l'ONU demande au gouvernement français de fermer progressivement tous les établissements existants et de transformer le marché actuel de l'offre de services aux personnes handicapées en une offre de services de proximité, notamment en matière de logement adapté. Ce qui est quand même, ce sont des préconisations assez, assez radicales et assez fortes et assez progressistes, à mon sens, en tout cas, même si je ne suis pas spécialiste de la question, que je ne me rends pas compte du quotidien de ces personnes. Mais en tout cas, quand l'ONU pointe un manquement, généralement, c'est censé être relativement indépendant et donc c'est à prendre au sérieux. Et l'ONU pointait évidemment des services essentiels inaccessibles aux personnes handicapées. Elle a constaté que les associations et collectifs de personnes handicapées dénoncent depuis des années de nombreuses infrastructures publiques et privées qui sont toujours pas accessibles aux personnes handicapées, alors même que la loi adoptée en 2005 prévoyait cette accessibilité pour toutes et tous et toutes. En 2015, il n'y a que 2 stations de métro à Paris qui sont accessibles aux personnes handicapées, ce qui est quand même incroyable, sachant que l'usage de la voiture est restreint et que c'est le principal mode de transport des habitants de la ville de Paris, le métro. Et l'ONU pointe aussi la loi Elan qu'a fait voter le gouvernement, un article qui réduit encore les obligations d'accessibilité au logement neuf des personnes handicapées. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette loi-là, la loi Elan. La loi Elan, oui, pardon.
j'ai un trou. Je sais que j'ai des échos, parce que je connais des enseignants, de quand même la scolarisation d'enfants handicapés dans des écoles publiques normales, et aussi de la difficulté des enseignants. Même bon, avec il y a souvent des auxiliaires qui sont donnés à ces enfants handicapés pour qu'ils puissent rester dans la classe et aussi pour les contrôler parce que ils peuvent avoir des accès de colère ou diverses quoi, mais c'est pas du tout facile pour les enseignants non plus quoi, d'avoir 30 élèves et voilà, donc il y a pas beaucoup de solutions idéales. Je suis pas sûre de ça. Bon, je pense qu'il y a aussi des choses qui sont faites intéressantes avec des choses genre de mi-temps quoi, avec des classes les CLIS, enfin, ou je sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais je veux dire une partie où les enfants sont par exemple l'après-midi dans une classe et puis le matin dans une autre où il y a beaucoup plus d'enseignants par rapport au nombre d'élèves et où ils apprennent mieux et à leur manière. Bon, c'est un peu je suis pas absolument convaincue de tout. Par contre, bon, ce que tu disais sur le droit de vote ou et la tutelle, en fait, je ne le savais même pas, d'ailleurs. Mais il y a sûrement des choses dans ce que tu dis qui sont vraies. Et sur l'accessibilité, c'est évident pour les services publics. Et après, je connais aussi d'autres trucs sur les services privés, par exemple. Mais quand dans un immeuble, il n'y a pas d'ascenseur, voilà, il n'est pas accessible. Mais tu ne vas pas tout casser. Je ne sais pas, il n'y a pas forcément de solution, quoi. Et il y a, puisque je connais les cabinets d'avocats, il y en a les trois quarts qui ne remplissent pas les conditions puisqu'ils sont en étage, qu'il n'y a pas d'ascenseur. Bon, voilà. Je ne sais pas vraiment comment tu peux transformer tout un... Ce n'est pas facile, même de 2005 à 2017, on aurait peut-être dû y arriver, je ne sais pas. Mais ce n'est pas particulièrement évident.
Non, c'est sûr, c'est des investissements pour l'éducation... C'est encore plus délicat, surtout en ce qui concerne les écoles primaires, l'accessibilité. On sait que ce sont maintenant les mairies de secteur qui gèrent les établissements scolaires, qui gèrent ça. Donc c'est un énorme chantier. Mais il faudrait que c'est bien que cette information remonte, c'est bien que l'État prenne en considération ce chantier qui est réel et qu'on peut pas continuer à mettre sous le tapis en permanence. Les belles de la France, le temps passe vite. Hein.
Peut-être qu'aussi, tout est tellement normalisé que voilà, il faut élargir les normes au moins. Enfin, je veux dire, moi aussi, je suis dans la tête, dans un fonctionnement tel que je l'ai connu, hein, certainement. Il faudrait pouvoir imaginer totalement autre chose, quoi.
Bon, sinon, pour la suite des infos. Bon, ça va peut-être pas changer grand-chose, hein, mais des ophtalmologues réclament un moratoire sur les balles de défense. Ils sont 35 professionnels à avoir écrit une lettre au président Emmanuel Macron pour alerter sur l'épidémie de blessures oculaires gravissimes dues à l'utilisation des lanceurs de balles par la police face au mouvement des Gilets jaunes. Bon, il y a des hospitaliers de renom, ils sont nombreux, mais leur mot d'ordre, c'est de dire qu'en tant que devoir, en tant que médecin, c'est leur devoir d'alerter. C'est ce qu'a expliqué à l'AFP Bahram Bodaghi, ophtalmologiste à la Pitié-Salpêtrière. Il n'y a aucune coloration politique, c'est une démarche humaniste. Les 35 ophtalmologues, ont à l'origine écrit une lettre à Emmanuel Macron, mais comme elle est restée sans réponse, ils l'ont envoyée au Journal du Dimanche pour publication. Ils ont par ailleurs mis en place, en lien avec la Société française d'ophtalmologie, une cellule de veille sur les blessures provoquées par les LBD, qui a recensé une vingtaine de personnes ayant perdu un œil. La Société française d'ophtalmologie avait déjà alerté en février la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il y a eu plus de 13 000 tirs de lanceurs de balles de défense qui ont été enregistrés depuis le début du mouvement. Et on compte combien de blessés ? 22 qui ont été éborgnés. Ouais, il y a 83 enquêtes concernant des tirs de cette arme controversée qui sont en cours. Et oui, il y a des fractures. Et voilà. Et il y a depuis le début du mouvement, il y a 2200 manifestants pour l'instant qui ont été blessés. Ça, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et c'est marrant, quand le ministère de l'Intérieur donne ces chiffres, il dit depuis le début du mouvement, il y a eu 2200 manifestants qui ont été diversement blessés et 1500 du côté des forces de l'ordre. Comme si, évidemment, c'était comparable, il y avait deux poids, deux mesures. Il y a eu autant de blessés dans les forces de l'ordre que des manifestants. C'est incroyable. T'avais eu cette info, toi ?
Eh oui. Mais non, mais quand tape, des fois, on se fait mal. Hein. C'est fatigant. Tendinite, voilà. Non, il y a, même si il y a aussi des fois des violences dans l'autre côté, hein, mais bon. En tout cas, hier au carnaval, tout le défilé, c'était tranquille. Hein. Pas l'ombre d'un policier, à part les roses, la brigade rose.
La brigade rose, ouais.
ils sont trop mignons. J'essayais de les emmerder. Putain, ils te repoussent quand même.
Ah ouais ?
Ah ouais, je voulais enlever la casquette. Voilà.
Ah, c'est sûr. Je pense que c'est plus facile de récupérer un képi rose qu'un vrai casque de garde mobile. Mais méfie quand même.
Mais tu vois, j'ai jamais osé essayer. Là, je voulais combler un vide, tu vois. Mais j'ai pas pu.
Mais l'heure tourne. C'est presque le début de. T'as quelques infos avant qu'on fasse un agenda, parce qu'il est 8h26.
Ben, non, enfin, il y a quand même 11 000 foyers privés d'électricité dans le Nord. Parce que les Hauts-de-France, c'est le Nord. Voilà, donc avec des vents violents hein, qui ont provoqué des gros dégâts.
D'accord. Et aussi, pour commencer avec peut-être les informations locales, les rendez-vous locaux du coup qu'on va prendre sur le site 2000 Babord et que vous pouvez aussi retrouver sur le site Marseille Information Autonome. Peut-être différente, mais pourquoi ne pas aller voir les deux, comme nous on le fait. C'était le 11 mars 2011 que le Japon était secoué par le séisme de Fukushima. Ça fait donc 8 ans maintenant. C'est la date anniversaire aujourd'hui. Et le 6 mars dernier est sorti le film Fukushima, le couvercle du soleil. Et à cette occasion, des projections, débats sont organisées dans plus de 30 villes françaises. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, en tout cas dans notre localité, dans notre département, à Aubagne, à 18h30, au cinéma Le Pagnol, c'est aujourd'hui, il y a la projection, débat de ce film, Fukushima, le couvercle du soleil. C'est organisé par le réseau Sortir du nucléaire. Voilà. Donc ça, c'est un rendez-vous qu'il y a au bagne aujourd'hui à 18h30. Mais à midi, à la cantine du midi au 36 rue Bernard, c'est toujours le repas de soutien en route pour le miam miam vroom vroom.
C'est des femmes qui passent le permis.
C'est des femmes qui passent le permis, ouais. C'est ça.
Et puis, il y a un rendez-vous à 17h30, 59 avenue de Saint-Just, donc devant le squat Saint-Just. Objectif école, j'imagine que c'est objectif de former les jeunes mineurs qui sont dedans et de les admettre dans des écoles. Voilà. Et puis à la librairie Transit, à 18h30, il y a une présentation de la revue algérienne NAQD, numéro 36. Bon, je ne sais pas ce que c'est. À vous de voir. Et puis enfin, à Aix-en-Provence, il y a toujours l'Université populaire du Pays d'Aix qui parlera musique contemporaine, généalogie et enjeux.
À Avignon, mardi 12 mars à 12h30, manifestation intersyndicale pour le retrait de projet de hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et extra-communautaires. À 12h30, à la Darlamifa 127 rue d'Aubagne, 13006, Kazoko, c'est la cantine de solidarité des copains et des copines.
Et puis mercredi 13 mars, à 18h30, au Rallumeur d'étoiles, un joli nom, une réunion publique de la coordination sud du FIQP, Algérie, un peuple en lutte, animée par Saïd Belguidoum, sociologue à l'AMU, ex-Marseille Université. Voilà. À 18h30, à la Maison du Peuple de Gardanne, 92 avenue Léo Lagrange, une conférence de Gérard Filoche, inspecteur du travail à la retraite, sur la réforme des retraites et dangers, donc organisée par les groupes Attaque des Bouches-du-Rhône. Et puis à 19h au Théâtre de l'Œuvre, un Rémission de France, c'est... J'arrive pas à lire.
Il y a ce coup de basse, c'est une soirée de solidarité à la Révolution soudanaise. Tu tombes, le hashtag de la Révolution soudanaise. Ça nous, tout ça nous amène au jeudi 14 mars, très tôt, à 8h30, au tribunal de grande instance, 6 rue Joseph Autran, dans le 6e, rassemblement en soutien aux inculpés de la plaine. Donc,
voilà. Et puis vendredi, ce sont les actions climat des jeunes. Hein, donc à 9h sur le cours Mirabeau, une action mondiale pour le climat. À Marseille, à l'Ombrière du Vieux-Port, à 13h30, collectif citoyen pour le climat et la jeunesse pour le climat Marseille seront aussi en manifestation. D'ailleurs, on demande qu'il y ait beaucoup d'adultes aussi, puisqu'il y aura pas mal de très jeunes. Et puis, à Manosque, à 10h, ce sera sur l'esplanade François Mitterrand, un conseil de vie lycéenne, lycéens et collégiens. C'est les mobilisations des vendredis pour le futur. Donc, c'est pareil. Hein. Voilà. On annonce aussi à Mont-Genèvre, au col du Mont-Genèvre, une marche solidaire avec une grande maraude solidaire à la frontière franco-italienne. Tous migrants et 5 organisations nationales donc, qui appellent à cette marche solidaire. Et puis enfin, au Cercle Manouchian, à 18h, c'est Espace Dauphin 91-93 Boulevard Jeanne d'Arc, dans le 14e, le franc CFA, ça suffit. Une rencontre débat économique. Voilà. Le samedi, les marches pour le climat, ça recommence. Hein, avec à Aix, place de la mairie, office du tourisme, une marche mondiale pour le climat. Et puis à Marseille, je pense aussi, normalement. Qui se confond un peu avec celle des Gilets jaunes. Même genre d'heure, même genre de lieu, l'Ombrière.
Ouais. Et puis généralement, depuis le mois de novembre, finalement, tous les mouvements convergent généralement vers le Vieux-Port, quel que soit leur lieu de départ. Mais il est 8h30, pile. Donc, passez une bonne matinée ou une bonne après-midi, si vous écoutez le podcast, et puis bonne fin de journée. À la semaine prochaine.
Et toute nue, elle chante comme ça. Commence, ça commence. Toute la forêt se met à parler. Mais en transe, de par sa mère, la sorcière s'arrête. Comment s'élever, comment prier, comment soigner. Hey!
fleuve de l'éternité de la nation. Alors,